Christophe Castaner, bonjour.
Bonjour.
Député sortant sur la seconde circonscription des Alpes-de-Haute-Provence pour La République en marche. Premier tour, ce sera dimanche. Ce soir à minuit, c'est la fin de la campagne et la période de réserve qui va s'ouvrir pour les candidats. Tout d'abord, cette campagne, comment vous l'avez sentie ? Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'abstention, du risque de l'abstention. Ce sera ça d'ailleurs le premier parti des législatives selon vous ?
On peut le craindre, votre question est pertinente et on voit bien comment aujourd'hui, globalement, les Français, mais aussi les Alpins de Haute-Provence, les Hauts-Alpins, ne semblent pas mobilisés, ne semblent pas même intéressés par l'élection législative, et pourtant elle est majeure. C'est celle qui permettra de confirmer le vote qui a été clair en France pour Emmanuel Macron, c'est celle qui permettra de lui donner les moyens, c'est celle qui permettra de ne pas ajouter de la crise à la crise avec une crise institutionnelle et une cohabitation provoquée et dirigée par Jean-Luc Mélenchon.
Mais qu'est-ce qui a été loupé ? Qui a fait une erreur justement pour qu'aujourd'hui on parvienne à cette abstention ?
Alors d'abord, si on a un peu de mémoire, on se souvient que les élections législatives qui suivent l'élection présidentielle dans le cadre de l'ordre qui avait été voulu par Jacques Chirac, président de la République, mobilisent toujours beaucoup moins que l'élection présidentielle. Donc c'est un phénomène hélas classique où beaucoup d'électeurs considèrent que l'essentiel a été fait au moment du vote à la présidentielle et ne se déplacent pas au moment du vote des législatives. Et après, globalement, et ça doit évidemment nous interroger, beaucoup d'électeurs se disent à quoi ça sert. Ils ont le sentiment que les désordres mondiaux, par exemple, sont plus forts que les réponses nationales. Je pense à la crise sanitaire, mais aussi à ces enjeux de souveraineté qui aujourd'hui peuvent apparaître pour beaucoup d'entre nous comme nous échappant. Et c'est justement cet enseignement-là qui fait que, par exemple, la conquête de la souveraineté sur l'agroalimentaire, j'étais hier avec des paysans des Alpes de Haute-Provence sur les questions d'élevage, mais aussi la conquête de la souveraineté internationale, militaire même, est essentielle. Quand on voit qu'on a en face de nous un candidat qui pense être Premier ministre alors qu'il est totalement aligné sur Moscou, on se dit qu'effectivement, il y a de vrais enjeux. Ça n'est pas assez perçu. Ben, merci de cette interview avec Alpe 1.
Vous ouvrez donc l'une de mes questions qui allait intervenir plus tard, mais ce n'est pas grave, je vais vous la poser maintenant. On sent bien sur vos réseaux sociaux depuis quelques jours, quelques semaines, que votre principal adversaire politique, c'est la NUP, la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, ou plutôt même Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui ce que vous avez dit dans une autre interview, les candidats de la NUP sont des reliquats soviétiques ?
En fait, j'ai parlé de régulation à la soviétique, mais n'entrons pas dans ces détails. De toute façon, oui, quand vous voyez que c'est un programme qui pose une quarantaine d'interdits sur les 650 mesures qu'il propose et qui parle de taxes 17 fois, on voit bien qu'on est dans un système où tout doit être régulé par le haut. Je prends un exemple. Manger gras et salé, c'est mauvais pour la santé, nous le savons. Mais je suis assez surpris de retrouver dans un programme politique de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'aujourd'hui, c'est le programme de LFI qui est devenu le programme de la gauche qui s'est rallié pour quelques postes à ce programme-là, avant de s'en séparer très vite, j'en suis sûr, dans les mois qui viennent, ça figure dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. C'est très étonnant. De la même façon, nous sommes un département forestier. L'interdiction des coupes rases. Les exploitants agricoles, mais aussi ceux qui ont une propriété chez eux, n'auront plus la possibilité de décider comment ils doivent exploiter leur forêt. C'est une régulation soviétique et je ne pense pas qu'elle ne soit très efficace.
Ça veut dire quoi aujourd'hui sur la NUP, il y a tromperie sur la marchandise ?
Ah oui, ben moi d'abord j'invite, mais il reste quelques heures, mais faites-le, à lire le programme de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, à accepter par exemple la fin du nucléaire dans notre pays, parce que même s'ils ne le tranchent pas dans le programme, ils expliquent que ça tranchera à l'Assemblée. Or, s'ils étaient majoritaires, c'est le LFI qui est hostile au nucléaire qui se prononcerait. Ça veut dire quoi ? Un affaiblissement plus fort encore de notre souveraineté énergétique, un alignement plus fort encore sur Moscou et sur la Russie, et surtout une explosion des prix parce que nous avons besoin de produire et de renforcer notre production d'énergie nucléaire.
Est-ce que pour vous aussi, il n'y a pas tromperie sur la marchandise ? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas le candidat de la droite ? En 2016, lors du lancement du parti d'Emmanuel Macron, il avait dit « Nous ne sommes ni de droite, ni de gauche ». Aujourd'hui, on voit que votre suppléante, Elisabeth Jacques, est une femme de droite. Aujourd'hui, 43 élus appellent à vous soutenir. Parmi eux, il y a beaucoup de noms de droite. On a cité déjà Daniel Spagnou, le maire de Sisteron. On retrouve aujourd'hui Laurie Sardella, conseillère départementale de Manosque. On vous a vu aussi dans une opération séduction auprès de Camille Galthié, le maire de Manosque, qui n'a jamais été vraiment très tendre avec vous. Comment va votre fibre socialiste aujourd'hui, votre ancienne fibre socialiste, elle est enterrée?
Alors permettez-moi d'abord de vous dire que je ne fais pas d'opération séduction. Je ne sais pas si c'est une pratique journalistique. Pour ce qui me concerne, je fais mon travail de député et je travaille avec l'ensemble des élus, y compris le maire de la plus grande ville de mon département. Et quand il a des projets importants, je l'accompagne. Ça, c'est une petite remarque perso parce que je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas abîmer la vie politique. On peut critiquer les politiques, mais il ne faut pas jouer avec les mots. Deuxième remarque, si vous allez dans cette liste, vous trouverez Patricia... la maire de Digne. Vous trouverez
Patricia Granet,
le sénateur. Pardon, je les appelle. Non, Patricia Granet, Jean-Yves Roux, le sénateur qui vient aussi de la gauche. De nombreux maires qui sont plutôt marqués à gauche. Serge Chaudrin à Villeneuve, Jérôme Dubois à Volx. Donc oui, aujourd'hui, nous sommes soutenus par des femmes et des hommes qui viennent de la droite, des femmes et des hommes qui viennent de la gauche. Pour moi, c'est une liberté. Ça m'évite d'être sectaire et de croire que tout doit se trouver dans une pensée unique qui est liée à une appartenance politique et qui est liée à un programme commun élaboré en trois jours, comme pour la NUPES, avec 650 propositions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me poser la question de savoir si une mesure, quand je la défends, elle est bonne ou elle n'est pas bonne, mais aussi sur toutes ses conséquences. Je vous prends un petit exemple, les pesticides. Nous sommes dans des départements, avec les Hautes-Alpes, des départements agricoles. La NUPES propose l'interdiction de tous les pesticides. Évidemment que je trouve qu'utiliser des pesticides est une mauvaise chose, les agriculteurs aussi. Mais aujourd'hui, nous avons une grande partie de la production, y compris de la production agricole bio, qui utilise des pesticides parce que sinon vous aurez un effondrement des rendements, voire plus de rendements du tout, et donc une explosion des prix.
C'est pour ça que vous aviez voté pour la réautorisation de l'utilisation des insecticides néonicotinoïdes, ce qu'on appelle les tueurs d'abeilles?
Alors je l'ai fait sur un produit en particulier qui s'appelle la betterave. La betterave était atteinte de la jaunisse et toute la filière betterave de France allait disparaître, toute la filière. Il y avait 40 000 emplois dans cette filière. Et une chose est sûre, c'est que nous aurions continué à consommer du sucre, mais qui serait venu de pays étrangers. Donc oui, nous avons fait un choix courageux, celui de réintroduire pour 3 ans avec des traitements qui se font avant la floraison et donc avant que les abeilles viennent dans les champs, et pour sauver une filière et 40 000 emplois. Je pense que c'est aussi ça le sens de la responsabilité. Alors on peut se faire plaisir, comme le fait la NUPES, pour dénoncer le fait que nous utilisons et que nous réintroduisons les néonicotinoïdes, mais moi je crois qu'il faut, dans la vraie vie, se confronter à la réalité. Alors on peut décider que dorénavant, nous n'achèterons plus que du sucre qui sera fabriqué en Pologne, et nous continuerons à consommer du sucre polonais qui utilise des néonicotinoïdes, ou alors on a cette approche pragmatique. Moi je considère qu'il nous faut sur ces sujets faire des recherches scientifiques et nous en faisons beaucoup, et que chaque fois qu'il n'y a pas de produit de substitution et qu'il y a une menace sur nos productions agricoles, l'amande du plateau de Valensole, qui aujourd'hui ne peut pas sortir en bio à cause d'une petite mouche qui l'empêche de se développer. Et bien par exemple là, je considère qu'il faut sauver la filière, qu'il faut continuer à produire des amandes dans les Alpes d'Haute-Provence.
Ça fait quoi d'être qualifié de député pas très vert selon le classement d'Agir pour l'environnement? Vous êtes 563e dans ce classement. Alors, je l'ai cité, hein, il y a eu cette loi sur la réautorisation de l'utilisation des insecticides néonicotinoïdes. Et puis, il y a aussi l'instauration de la taxe sur les engrais azotés. Vous avez voté contre. Aujourd'hui, on dit, tout le monde le dit, il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, taper beaucoup plus fort pour la transition écologique.
Nous le faisons, mais pas avec l'écologie punitive. Allez dire aux paysans des Alpes de Haute-Provence qu'il faut mettre une taxe supplémentaire sur les engrais azotés, alors même que les engrais ont augmenté de 3 fois leur prix en quelques mois. C'est ça la réalité. Alors ça fait plaisir à quelques associations, je ne connais pas cette association, je ne sais pas s'ils ont des représentants dans nos départements alpins, mais s'ils en ont, qu'ils n'hésitent pas à être confrontés à la réalité. Nous, sous notre mandature, nous avons fait baisser de 12% les gaz à effet de serre dans le pays. C'est le double des 2 quinquennats précédents. On a fait une partie du chemin. On doit aller plus vite, et vous avez raison. C'est la raison pour laquelle c'est la première ministre elle-même qui va piloter ça. Mais ensuite, vous êtes confronté à la réalité. Alors vous pouvez décider de dire, du jour au lendemain, on va interdire aux véhicules de se déplacer. Vous aurez des résultats efficaces en matière de baisse de production de carbone. Mais en même temps, allez le dire aux habitants de nos départements. Donc moi, je préfère avoir une vision réaliste qui n'impose pas et qui ne punit pas. Mais une réalité, c'est aussi faire agir. Et que ce soit quand j'ai été maire de Fort-Quelquier, où j'ai fait beaucoup dans cette ville sur les questions d'environnement, ou que ce soit au niveau national, moi je ne pense pas qu'il faut le faire contre les gens et pour les punir.
On a beaucoup entendu durant la crise sanitaire le quoi qu'il en coûte. D'ailleurs, vous l'avez vous-même mis en avant ces derniers jours sur le fait que ça a permis aux entreprises de faire face à la crise. Sauf que le quoi qu'il en coûte a un coût, a un prix, et c'est la dette. On n'en entend plus vraiment parler aujourd'hui dans cette campagne. Pourtant, c'était en 2021 113% du PIB.
Vous avez raison, c'est un enjeu majeur. Et donc nous devons assumer les décisions que nous avons prises. Nous avons sauvé l'économie de notre pays et permis aujourd'hui d'avoir une relance très forte et donc du coup une croissance très forte et donc une situation et une perspective de plein emploi qui est atteignable pour notre pays. C'est historique et c'est aussi parce qu'on a décidé de sauver l'ensemble de nos entreprises. Vous savez, les petits commerces de la vallée de l'Ubaye font partie des entreprises que nous avons pu sauver par le quoi qu'il en coûte et ça me paraît important. Mais c'est la différence entre les moments d'exception où c'est le rôle de l'État, justement, d'intervenir et de préserver, voire de sauver ceux qui sont les plus menacés. Et les propositions que nous font, par exemple, la NUPES, où le déficit qui est prévu par l'ensemble des observateurs extérieurs à la NUPES, parce qu'ils ont généralement l'habitude de s'évaluer eux-mêmes. Le déficit est entre 220 milliards et 350 milliards. Alors, ça ne parle pas beaucoup, mais je vous prends un exemple. C'est comme si une famille qui gagnait 2000 euros par mois, du jour au lendemain, se mettait à dépenser 3800 euros par mois. C'est sympathique, le fait de dire que tous les jeunes de 18 ans pourront toucher, et il y aura un minimum pour tous les Français, 1075 euros chaque mois, du moment qu'ils sont en situation de ne pas travailler. Je trouve que c'est sympathique, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, il faut le payer. De la même façon, on peut dire que toutes les retraites vont monter à 1500 euros et qu'on arrêtera de travailler à 60 ans. Quand tous les pays voisins de la France travaillent entre 65 et jusqu'à 70 ans. Donc on peut le dire. La réalité, c'est que les retraites, par exemple, sont payées par les travailleurs. Quand vous avez 1,6 travailleurs aujourd'hui qui cotisent pour les retraites d'un retraité, imaginez les conséquences sur leur fiche de paye s'ils devaient financer la retraite à 1500 euros et à partir de 60 ans. Donc nous assumons un réalisme quand d'autres proposent des fantasmes.
Il y a un défi qui attend le prochain député de la seconde circonscription des Alpes-de-Haute-Provence. En 2019, 17% de la population de cette circonscription avait un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, alors que la moyenne nationale s'élevait à 14,5%. Qu'est-ce qu'on fait et pour le pouvoir d'achat et pour les plus pauvres ?
D'abord, on crée du travail. En 5 ans, nous avons baissé le chômage dans ce département de 22%. Si j'intègre les derniers chiffres qui sont tombés il y a quelques jours. Et je pense que la meilleure mesure de pouvoir d'achat et la meilleure mesure pour sortir de la pauvreté, c'est de proposer du travail de proximité à celles et ceux qui sont en recherche active de travail. Ça passe par l'ambition que nous portons sur l'apprentissage, par exemple, où nous avons réussi à doubler les chiffres au niveau national. 718 000 apprentis aujourd'hui dans notre pays. On doit se fixer l'objectif d'accompagner 1 million de jeunes comme apprentis. Ce sont des emplois dans les villages, des savoir-faire qui restent, qui perdurent et qui vont continuer. Mais il y a aussi des urgences nécessaires. La première loi que nous porterons au mois de juillet sera une loi d'urgence pour le pouvoir d'achat avec l'augmentation de l'indice des fonctionnaires, avec l'augmentation d'au moins 4% des retraites pour tous les retraités, avec la possibilité de verser des primes de pouvoir d'achat dans les entreprises allant jusqu'à 6 000 euros sans charges fiscales et sans impôts, mais aussi d'autres mesures comme le maintien du bouclier contre l'augmentation du prix du gaz ou de l'électricité. Il y a des pays voisins, au nôtre, où les conséquences du gaz et de l'électricité, c'est 1 500 euros de dépenses supplémentaires. Ben, nous avons fait un bouclier et on l'a bloqué, le prix. C'est ce que nous allons maintenir dans cette loi d'urgence.
Au niveau de la santé, la circonscription est légèrement sous-dotée par rapport à la moyenne française, notamment au niveau des médecins, au niveau des dentistes. Et on pense beaucoup, bien sûr, aux urgences de Manosque, hein, qui a rejoint l'actualité de 120 services d'urgence en France, qui ferment ou qui sont fermés de manière plus occasionnelle. Il faut agir vite. Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture d'une mission d'information sur les services d'urgence. Mais quand on veut agir vite, qu'est-ce qu'on promet ?
Ah ben, on ne promet pas que d'un claquement de doigts, on va former des médecins. Parce que pour former des médecins, il faut supprimer le numerus clausus. Nous l'avons fait dès 2018. Mais ensuite, il faut 10 ans de formation. Par contre, il y a des bonnes pratiques qui sont possibles. Que les choses soient claires. Il ne s'agit pas d'une question d'argent. On a créé le numerus clausus sur une question d'argent. On s'était dit que s'il y avait moins de médecins qui étaient formés et donc moins de médecins sur le terrain, il y aurait moins de dépenses. En 2017, le budget de la dépense maladie dans notre pays était à 186 milliards. Nous avons engagé pour 2022 236 milliards. C'est une augmentation exceptionnelle. Nous avons investi massivement dans les hôpitaux, y compris l'hôpital de Manosque. Nous avons porté 16 millions pour améliorer sa situation financière. Et nous avons apporté des investissements pour, par exemple, pouvoir développer un service de fin de vie dans cet hôpital. Et donc, nous sommes aux côtés de l'hôpital et nous sommes aux côtés des urgences de l'hôpital. Mais sur le sujet particulier des médecins urgentistes, nous souffrons d'une carence partout en France, liée notamment au fait que c'est devenu une spécialité et que finalement, il y a peu de médecins qui prennent ces spécialités, d'où la mission d'urgence qu'a confiée le président de la République au docteur Braun, qui connaît bien ces sujets, pour que nous prenions toutes les bonnes pratiques, allant même, j'ai vu que le maire de Manosque s'était exprimé sur ce sujet, jusqu'à remettre en cause la spécialisation qui fait qu'un médecin qui prend cette spécialisation ne peut plus s'installer comme médecin généraliste sur les territoires. Et donc il nous faudra, sur ces sujets, adapter la règle et construire territoire par territoire une offre de soins. C'est pour nous une priorité. Nous avons déjà cassé le numerus clausus, mais nous devons aller plus loin.
Alors, Emmanuel Macron, et ce sera ma dernière question, promet une autre méthode de gouvernance. Ça veut dire quoi? Plus de recours au 49-3? On met en place le RIC, le référendum d'initiative citoyenne?
Alors d'abord, le 49-3 n'a été utilisé, je crois, qu'une fois en 5 ans, alors que nous avons dû voter plusieurs centaines de lois. C'est important de rappeler les choses, même si là aussi on peut se faire plaisir, en utilisant des sujets qui ne parlent pas, à mon avis, à grand monde, mais ont un écho médiatique. Michel Rocard, quand il était Premier ministre, et je suis quelqu'un qui s'est formé dans le rocardisme, l'utilisait quasiment tous les mois, parce que c'était un outil que le Parlement utilisait sans difficulté. Depuis, c'est devenu un objet de fantasme, mais je vous rappelle, on l'a utilisé qu'une seule fois, et nous entendrons l'utiliser plus souvent que cela. Mais c'est par contre construire des réponses territoire par territoire. Nous venons de parler des urgences, mais aussi de l'offre de soins. Mais nous devons parler aussi de l'école. Je suis convaincu qu'il faut mettre l'ensemble des partenaires autour de la table. Trop souvent, les maires, les parents d'élèves ne se sentent pas liés et responsables avec l'école. Ben oui, ben créons des collectifs locaux où on pourra travailler à l'échelle territoriale. Sur la question des urgences, c'est un bon exemple. Le maire de Manosque est totalement mobilisé, met en place des solutions de type appartement mises à disposition par la ville pour trouver des solutions, bah ça fait partie des sujets sur lesquels nous voulons travailler. C'est aussi ça la nouvelle méthode, mais c'est la nouvelle méthode qui consiste à écouter, à discuter, à essayer de faire partager l'ensemble des conséquences des décisions qui sont prises, que je vous expliquais tout à l'heure sur les pesticides, me paraît un bon exemple. Je suis convaincu que M. Mélenchon, qui veut interdire les pesticides du jour au lendemain, s'il rencontrait les arboriculteurs de la vallée de la Durance, il comprendrait que c'est toute la filière qui du coup s'arrêterait et qu'on n'aurait plus de pommes françaises si on disait du jour au lendemain on arrête tous les pesticides. Et puis il constaterait combien ils ont fait des efforts ces dernières années pour diminuer drastiquement l'utilisation des pesticides. S'il parlait avec les agriculteurs, il s'apercevrait que 93% des molécules dangereuses ont été supprimées en 5 ans dans le monde agricole. Et donc c'est ça que nous voulons faire, c'est partager la vision d'ensemble, essayer d'avoir une approche plus pragmatique qu'une approche doctrinaire, et c'est territoire par territoire que nous voulons la construire.
Merci Christophe Castaner d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Je rappelle, vous êtes député sortant sur la seconde circonscription des Alpes-de-Haute-Provence pour La République En Marche, une soirée électorale à vivre dimanche soir sur Alpe 1 dès 19h45. Merci beaucoup.
Merci.